Vous allez écouter Sur ma route, une émission réalisée en partenariat avec la préfecture de Vaucluse dans le cadre du plan départemental d'action de sécurité routière.
Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Sur ma route, donc réalisée en partenariat avec la préfecture de Vaucluse. Le thème de cette émission aujourd'hui, nous allons aborder les accidents du travail. Donc, nous allons parler entre autres aussi trajet domicile-travail et le risque routier professionnel. Pour en parler, nos invités du jour, nous avons tout d'abord monsieur Nicolas Geoffrey, chef du pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons aussi madame Isabelle Ducry, élue à la mairie de Bédary, des délégués à la sécurité routière et entre autres aussi 25 ans de police municipale, je le précise. Bonjour, merci d'être parmi nous et puis merci aussi à monsieur Geoffrey. Nous avons aussi monsieur Xavier Le Gall. Alors là, vous venez d'un peu plus loin, monsieur Xavier Le Gall. Vous venez du 83, merci de vous être déplacé pour nous. Vous êtes responsable de l'association Vigideroux, donc une association nationale. On va en parler dans quelques instants. Et donc pour commencer cette émission, moi je souhaiterais en savoir un petit peu plus sur nos invités avant de parler un petit peu donc de cette thématique. On va commencer peut-être par madame Isabelle Ducry. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre rôle, tout d'abord au sein de la mairie de Bédary, notamment en tant que déléguée sécurité routière?
Oui, entre autres, déléguée sécurité routière, bien entendu, mais en fait, tout ce qui est tranquillité publique et sécurité dans sa globalité. Donc, par la mairie, diverses actions, et notamment des journées tranquillité sur la route, sécurité, dont nous parlerons peut-être ultérieurement.
Merci. Et puis, nous avons aussi monsieur Le Gall, donc pour l'association Vigideroux. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre rôle au sein de cette association tout d'abord?
Oui, bonjour. Donc, je suis Xavier Le Gall et je suis le vice-président de cette association, Vigideroux, qui est une association nationale qui intervient au niveau national sur le risque routier. Alors, à la fois sur le risque routier professionnel et sur le risque routier en général.
Et vous organisez donc tout au long de l'année des ateliers sur la sécurité destinés aux particuliers, mais aussi aux collectivités et entreprises?
Absolument, puisque par l'intermédiaire des préfectures, nous organisons 26 ateliers, entre 26 et 30 ateliers, destinés donc à sensibiliser l'ensemble des usagers de la route sur différents sujets, puisque, comme nous l'aborderons plus tard, on sait que 92% des accidents sont comportementaux. D'accord, c'est-à-dire ont des causes comportementales.
Et nous avons aussi à nos côtés monsieur Nicolas Geoffrey, donc chef du pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre rôle?
Oui, alors mon rôle est très simple. J'ai la partie prévention et la partie sanction. Voilà, donc tout ce qui est politique, on va dire, locale de la sécurité routière. Donc on intervient dans les écoles, les lycées, les collèges, les entreprises, les foires, les salons. Donc on intervient un petit peu de partout pour faire de la prévention. Et l'autre partie de mon bureau, c'est la sanction, c'est-à-dire les retraits de permis, les suspensions et puis les commissions médicales pour les retours au permis ensuite.
Et donc pour commencer cette émission, pour un petit peu poser le décor, moi j'aurais souhaité savoir déjà pour nos auditeurs aussi, c'est quoi un accident de travail?
Qu'est-ce qu'un accident de travail? À partir du moment où vous prenez votre véhicule et vous partez de chez vous, et que vous avez un accident sur la route de votre travail, ou que vous êtes arrivé au travail mais que vous êtes en mission pour l'entreprise, il s'agit d'un accident du travail. C'est-à-dire qu'on est soit dans le trajet domicile-travail, soit dans le trajet mission.
Donc, trajet domicile-travail, trajet professionnel, pareil?
Absolument.
On fait vraiment il n'y a pas de distinction, si vous voulez, pour l'accident de travail. C'est vraiment soit je pars de chez moi et je vais travailler, soit cela fait partie de ma mission de travail. Donc, je suis un conducteur, soit un routier, soit un commercial, soit je me déplace pour X raisons dans le cadre de mon travail.
Alors, qui est le plus concerné par les accidents de travail? Est-ce qu'il y a des véhicules de roue? Il y a plus d'accidents peut-être moins utilisés? Est-ce que c'est les voitures, les camions, les véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires?
Alors, globalement, ce sont les véhicules de tourisme qui sont le plus impacté, bon, déjà parce qu'il y en a plus, donc c'est mathématique. On a aussi quelques accidents moto, voilà. Tout ce qui est accident de camion, de camionnette, on en voit très peu.
La description, en fait, la description du parc roulant est effectivement celle-là, et les statistiques vont en fonction du parc roulant.
Les accidents moto, enfin disons que la circulation moto, c'est 2% du trafic. Donc, de facto, on déduit ces chiffres-là des véhicules légers, où là, on a énormément de personnes qui partent travailler le matin en voiture, voilà, de façon classique, hein.
Et Madame Ducry, vous, au sein de Bédary, en tant que déléguée de sécurité routière, est-ce que vous constatez la même problématique?
Tout à fait, oui. J'ai mis un petit avis concernant justement les motos. en période, on voit beaucoup de motos en période estivale. Déjà, on les voit beaucoup moins pendant l'hiver sur les routes. J'ai mes stats sur la commune parce que bon, nous sommes traversés donc par la nationale et enfin la départementale 907. Et donc, en effet, il y a beaucoup moins de motos l'hiver. Mais dans le cadre des interventions, la plupart du temps, en effet, ce sont des véhicules dits légers, les VL.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau national, la relation entre le parc moto, enfin entre le nombre de motos qui circulent et l'accident, les accidents sont statistiquement beaucoup plus importants sur le parc moto par rapport au nombre de motos qui circulent.
Ils sont déjà plus graves.
Et ils sont déjà beaucoup plus graves.
Est-ce que les accidents se produisent plus, on parlait de national, sur le réseau principal, secondaire, autoroute, en agglomération?
Disons que les routes secondaires, ce sont les routes qui sont les plus empruntées. Donc forcément aussi, ce sont les endroits où on a le plus d'accidents. L'autoroute serait, on va dire, la route la plus sûre sur notre base d'accidentalité. Tout ce qui est route secondaire, oui, effectivement, c'est là qu'on a le plus d'accidents.
Si les routes sont étroites, est-ce qu'il y a plus d'accidents ou pas?
Tout dépend comment roulent les gens. On en revient sur une partie de comportement. Là où il y a le plus d'accidents, où ils sont plus dangereux, c'est sur une belle route, en ligne droite, par beau temps. Donc, une route sinueuse et en mauvais état n'est pas forcément un signe d'accident. Je dirais même au contraire, parce que les gens font plus attention.
Donc, finalement, effectivement, on est plus attentif quand il fait mauvais temps, c'est ce que vous êtes en train de me dire, quand il fait beau et quand la route est droite.
Ah, on est dans la typologie même de l'hypovigilance, c'est-à-dire à moins de 15 km de domicile. Il faut savoir que les stats qui n'ont pas beaucoup évolué sur ce sujet, les accidents mortels arrivent dans un pourcentage important tout seul, à moins de 15 km de domicile, sur route plate, par une belle météo, et sur une route droite. Donc là, on est dans la typologie même de ce que disait M. Geoffrey, c'est-à-dire dans l'hypovigilance.
Comment peut-on éviter peut-être un accident de trajet travail? Est-ce qu'il y a des solutions?
Comme tout accident, pas forcément les trajets travail, mais on est vraiment dans la vigilance. Et c'est là et le respect surtout du code de la route, hein, c'est ça qui évite les accidents au maximum. Hein.
Donc rouler moins vite, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que partir plus tôt aussi, ou partir à l'heure, pour être moins tenté d'accélérer peut-être, est-ce que ça fait partie d'une des solutions?
Comme vous le disiez tout à l'heure, et comme on le rappelait, comme le rappelait M. Geoffrey, 92% c'est du comportemental. Donc forcément, à un moment, adaptez votre comportemental. Vous disiez à l'instant, comment éviter? Comment éviter, en fait, comment ne pas être hypovigilant? Être hypovigilant et être vigilant, c'est être concentré. Donc, c'est ne pas être distrait. Ne pas être distrait, c'est ne pas avoir des sollicitations de distracteurs, comme le téléphone, comme un certain nombre de choses à côté qui font qu'à un moment, vous allez avoir les yeux ailleurs ou le cerveau ailleurs, et qu'à un moment, vous n'allez pas être vigilant sur le trajet que vous êtes en train d'effectuer.
Quelles sont les solutions qui sont mises en place peut-être par la mairie de Bédarry pour rouler moins vite en centre-ville, notamment?
Alors, au niveau des infrastructures, bien entendu, tout ce qui va être Dodane, on a implanté également au niveau de la Nationale 7 un radar pédagogique qui a donné des chiffres et des stats relativement positifs. Après, on essaie au maximum. Je veux dire, on a la police municipale et les gendarmeries qui patrouillent, mais on en est à la répression un petit peu aussi. Mais il y a la pédagogie au départ et on essaie de sensibiliser par des moyens d'action comme les journées sécurité ou des flashs sur le site de la ville ou sur les panneaux en leur rappelant qu'il faut être vigilant au volant, que la vitesse, on n'arrivera pas plus vite, l'intérêt étant d'arriver. Et voilà, tout un tas de petites choses comme ça que nous faisons, pas au quotidien, mais que nous faisons de manière récurrente au niveau sur une année.
Et vous parlez justement de deux journées sécurité routière qui sont organisées au sein de Bédarrides, donc en lien avec la préfecture de Vaucluse et donc la partie pôle sécurité routière. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces deux journées avec pas mal d'exercices, notamment on en discutait hors antenne, exercices de désincarcération, aussi alcool au volant, comment s'en rendre compte les effets de l'alcool au volant. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors donc j'avais organisé sur la commune donc deux journées, et quand on sera peut-être sorti du Covid on recommencera, donc où il y avait donc la participation de la préfecture de Vaucluse, Il y avait également tout ce qui était gendarmerie, qui était venu amener des ateliers, notamment des véhicules. Bon, on avait les motards. Et on avait des ateliers donc, sur l'alcool, sur tout ce qui était conduite au volant. On avait les lunettes alcool, les planches, avaient remporté un franc succès parce que les gens, en fait, n'ont pas notion des troubles du champ visuel lorsqu'on est alcoolisé. Donc, ça avait impacté pas mal de personnes. Et on a vu la participation de nos pompiers locaux. Mais la deuxième fois, avec une société, enfin pas une société, c'est une annexe des pompiers qui sont spécialisés dans la désincarcération et où on a fait un exercice de désincarcération en direct.
Et là, c'est impressionnant.
Oui, on avait mis en plus quelqu'un à l'intérieur. Bon, elle n'était pas blessée, heureusement. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte du temps qu'il faut pour désincarcérer. Et notamment, là, en l'occurrence, on en était à plus d'une heure. Et ça a impacté énormément de gens, de voir le temps qu'il fallait et toutes les mesures de sécurité qu'il faut tout autour de ça.
Et au sein de l'association Vigie de Roux, quelles sont les actions, par exemple, qui sont mises en place aussi ?
Alors, l'intérêt, justement, c'est que, comme Vigie de Roux travaille sur le piéton, les EDPM, donc les nouveaux engins de déplacement motorisés, les voitures, les motos. Donc on va dire qu'aujourd'hui, on adresse un ensemble assez large en termes de prévention du risque routier. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver chez nous, par exemple, des ateliers pour mettre correctement la ceinture de sécurité, la voiture tonneau, pour aussi apprendre comment on peut charger correctement un véhicule, mais je crois qu'on en parlera tout à l'heure, de manière à ce qu'en cas d'accident, je dirais tout ce qui se promène à l'intérieur ne devienne pas des armes, mais les ateliers alcool. On va en fait, nous, travailler sur à démontrer aux gens que c'est du comportemental. Vous parliez tout à l'heure de vitesse. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus la vitesse augmente, plus le champ visuel diminue. C'est-à-dire qu'à 130 km/h, il faut savoir que le champ visuel, chez n'importe quel humain, hein, c'est physiologique, d'accord, diminue pour se retrouver à être à peu près 30 degrés en face de soi. À 90 km/h, il s'élargit à 70 degrés. Ce qui veut dire à un moment que les limitations de vitesse sont aussi faites pour à un moment tenir compte de ces paramètres physiologiques, puisqu'on est là sur des paramètres physiologiques.
Vous parlez justement de champ de vision qui diminue au plus on accélère. Les aspects psychologiques, justement, au plus on accélère, est-ce qu'il y a des choses qui se rajoutent ? Donc peut-être fatigue oculaire, perte de calme, stress important, tout ça, tous ces facteurs-là ?
Plus on va aller vite, quelque part, plus on va solliciter le cerveau. Puisqu'à un moment, il va falloir enregistrer un nombre d'informations beaucoup plus importantes, il va falloir être beaucoup plus vigilant. Donc en fait, j'irais jusqu'à dire qu'on ne produit pas du stress, mais on produit forcément à un moment une fatigue qui va arriver beaucoup plus vite. Je pense que le plus important quand même, c'est de savoir qu'à un moment, qu'on soit homme, femme, jeune, plus âgé, à un moment, il y a une physiologie commune, et que cette physiologie commune, les gens doivent en avoir conscience, en fait. Tout le monde doit en avoir conscience. On va prendre un exemple assez simple. À 130 km/h sur autoroute, on va tous dans le même sens. On est protégé à gauche par une double barrière, on est protégé à droite par du grillage, et normalement, il ne doit pas survenir d'incident, je dirais, de côté, qui arrive de côté. Pourquoi, aujourd'hui, on diminue la vitesse sur, des axes qui ne sont pas des axes comme ceux qui sont protégés sur autoroute, parce que quand vous êtes sur une nationale, vous êtes déjà à double sens, il peut subvenir de droite et de gauche un certain nombre de choses, et à un moment, il va falloir que le champ visuel soit capable de les intercepter. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va appeler la perception du regard à un moment pour pouvoir réagir. On en parlera tout à l'heure, mais la réaction, c'est-à-dire bien réagir parce qu'on a identifié dans le champ visuel une problématique, et on en parlera tout à l'heure, on va parler de la distance parcourue pendant le temps de réaction et de la distance de freinage.
Eh bien écoutez, on va se retrouver donc dans quelques instants, juste après une très courte pause. Donc, je vous rappelle que le thème de cette émission, c'est les accidents du travail, sur le trajet domicile-travail, trajet professionnel et le risque routier professionnel. On se retrouve dans un instant donc avec nos invités. Je rappelle Madame Isabelle Ducry, donc élue à la mairie de Bédarry des délégués à la sécurité routière, Monsieur Xavier Legal, aussi responsable de l'association Vigie de Roux, et Monsieur Nicolas Geoffrey, donc chef du pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse. A tout de suite sur l'antenne d'RTVFM. I might. Et de retour dans l'émission Sur ma route, réalisée en partenariat avec la préfecture de Vaucluse, toujours avec nos invités. Je vous le rappelle, si vous nous rejoignez en ce moment sur l'antenne d'RTVFM, nous avons Madame Isabelle Ducry, élue à la mairie de Bédary, des déléguées à la sécurité routière. Nous avons aussi Monsieur Xavier Legal, responsable de l'association Vigie de Roux. Et nous avons aussi Monsieur Nicolas Geoffrey, chef du pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse. Je rappelle la thématique de cette émission aussi, c'est les accidents du travail et entre autres aussi le risque routier professionnel. Et pour continuer cette émission, on en discutait hors antenne, le risque d'accident, est-ce qu'il se produit le plus quand on connaît le trajet et à qui ce n'est pas arrivé de ne pas se rendre compte justement qu'on a fait un trajet de 5 km. Madame Ducry.
Oui, tout à fait. Je pense qu'on devient en hypovigilance quand on connaît bien le parcours. On se met à penser ce que, dont nous avons à penser dans notre vie professionnelle, familiale. Et en fait, je disais, à qui n'est-il pas arrivé de partir d'un point A à un point B, arriver au point B, ne pas se rappeler avoir fait la route. Donc en fait, à ce moment-là, on conduit par réflexe. Et en fait, c'est là où on est le plus, j'allais dire, vulnérable. Parce qu'on connaît la route et on ne se rend plus compte de rien du tout.
Effectivement, pour reprendre ce que disait madame, le cerveau, en fait, dans son fonctionnement physiologique, voit tous les jours la même chose, enregistre tous les jours la même chose. Et en fait, à un moment, c'est exactement ce que vous disiez, on devient hypovigilant parce que le cerveau voit tous les jours la même chose et en fait a déjà enregistré un certain nombre d'informations. S'il ne se passe absolument rien de particulier, effectivement, c'est ce que disait madame, on est dans la conduite automatique. Et à qui ça n'est pas arrivé, même à moi le premier, je dirais un moment, de partir d'un point à un autre et de s'apercevoir en fait qu'il ne s'est rien passé. Il ne s'est absolument rien passé et on ne se souvient même pas. Des fois, on ne se souvient même pas de ce qui s'est passé sur le trajet. Et là, c'est vraiment la caractérisation de l'hypovigilance.
On a des solutions pour éviter cette hypovigilance? Qu'est-ce qui peut être mis en place?
C'est compliqué parce que là, on rentre dans une habitude. Et pour casser les habitudes, c'est pas évident. Hein.
Il faut les changer.
On peut conseiller aux gens de changer de route, mais c'est peut-être pas forcément...
Changer de radio, c'est pas la solution non plus.
C'est pas la radio, non. C'est pas la solution. C'est faire un travail sur soi, hein, essayer de conduire plutôt par anticipation plutôt que par automatisme.
On parle peut-être les trajets courts, c'est le cas, hein, puisqu'on sait des trajets répétitifs pour aller à son travail, mais sur des trajets plus longs, est-ce qu'on a les mêmes facteurs qui rentrent en compte? Alors si on le connaît, bien évidemment.
Tout dépend si on connaît la route. On est sur le même principe, à partir du moment où on connaît la route, les caractéristiques, à tel endroit je peux passer, à tel endroit c'est compliqué, à tel endroit, voilà, on est toujours sur l'habitude. Un long trajet qu'on ne connaît pas sera peut-être moins dangereux qu'un long trajet qu'on connaît.
Et vous disiez tout à l'heure, quand on parlait tout à l'heure de vitesse, et qu'on disait on va générer de la fatigue, puisqu'on va générer un travail du cerveau, on va générer un travail d'attention, effectivement, comment être plus dans un phénomène plus sécuritaire? Effectivement, c'est un moment de s'arrêter régulièrement. Et je crois que les messages à la fois des autoroutes, de l'État passent. Je veux dire, s'arrêter toutes les deux heures, c'est pas un vain mot. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut mettre l'ensemble du cerveau au repos ou à faire autre chose. Et puis le corps aussi, subit quand même une fatigue. Et donc, faire une pause toutes les deux heures, effectivement, c'est extrêmement important.
Alors, je vais me retourner vers M. Geoffrey de nouveau. Est-ce qu'on peut peut-être faire un petit peu le bilan des accidents sur le trajet domicile-travail au niveau départemental, j'entends? On va parler un tout petit peu de chiffres. En 2019, le bilan et peut-être l'évolution des dernières années, surtout.
Alors, si on est sur l'accidentalité des risques routiers professionnels, dans le Vaucluse, on est à 27%. 27% des accidents recensés dans le Vaucluse concernent les risques routiers professionnels. Globalement, d'une année à l'autre, ça ne change pas trop. Hein, on est entre 25 et 30. Donc voilà, ça, c'est la moyenne départementale. Après, sur l'accidentalité générale, on a eu une baisse en 2019, une baisse des accidents. 2020, je ne vais pas en parler parce que c'est quand même une année particulière. Effectivement, les chiffres sont meilleurs que 2019, mais on n'a pas roulé pendant deux mois.
Il y avait un danger justement avec le Covid, c'est comme il y avait moins de monde sur les routes, les gens allaient plus vite aussi.
Alors, il y a eu un autre facteur, il y a eu moins d'accidents. En revanche, vu que moi, dans mon service, j'ai la partie suspension de permis, on a vu une explosion des rétentions de permis au moment de du confinement. Et juste après, alors là, ça a explosé.
On va peut-être rentrer sur un thème, donc là, vraiment le thème du risque routier professionnel. C'est quoi la définition claire du risque routier professionnel? Qu'est-ce que c'est, Monsieur Legal?
Le risque routier professionnel, on en parlait tout à l'heure, à partir du moment où vous quittez votre domicile pour aller sur votre lieu de travail, c'est un accident du travail. À partir du moment où vous êtes sur votre lieu de travail et que vous êtes en mission pour l'entreprise, c'est un accident du travail. Vous quittez votre domicile pour partir en mission, c'est un accident du travail.
Madame Ducry, cela représente un fort coût pour les entreprises, humains et financiers, ainsi que de nombreux arrêts de travail quand il y a des accidents, notamment aux mairies, aux collectivités, aux entreprises. Est-ce que vous, au niveau de la mairie de Bédaride, ça représente un fort coût ?
Oui, automatiquement. Mais nous avons le privilège d'être dans une ville, je veux dire, rurale, où donc, bon, moins impactée que les gens, en l'occurrence, qui se rendent dans les communes de plus grande population et donc de plus grande circulation. Nous, on a beaucoup d'employés qui sont résidents sur la commune et donc les trajets sont limités. On se retrouve toujours malgré tout avec les gens mais qui, toujours pareil, l'histoire de bien connaître la voie qu'ils empruntent tous les jours, ça c'est le genre de risque. Mais après, je veux dire, bon, on essaye au maximum d'expliquer à nos employés toutes les précautions à prendre et bon, les véhicules sont adaptés. En fait, voilà, on est obligé de se limiter à ça, mais ça a un coût. Ça a un coût automatique.
Et au niveau départemental et national, par exemple avec l'association Vigideroux, est-ce que vous avez aussi constaté que ça représente un fort coût pour les entreprises ?
Alors, ça représente des coûts humains, ça représente des coûts de désorganisation et ça représente surtout des coûts pour l'État et pour l'ensemble, pour l'ensemble du budget français. On va commencer par le coût humain. En fait, c'est toutes les conséquences humaines et sociales que peuvent avoir l'accident à partir du moment où il est constaté et où il est grave. Je dirais à la fois dans l'entreprise, le poste qu'occupe la personne accidentée dans l'entreprise, la désorganisation, l'éventuel remplacement, les éventuelles procédures qui vont générer des frais. Et puis il y a toutes ces conséquences, je dirais, on en parlera tout à l'heure dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, puisque le chef d'entreprise se doit à un moment de faire de la prévention sur le risque routier. Et on a aussi une autre conséquence, c'est l'augmentation du taux d'accident du travail qui représente des charges, je dirais, qui vont venir une augmentation sur les charges qu'a à payer l'entreprise sur une année. Donc effectivement, oui, des conséquences extrêmement importantes qui ne sont pas toujours bien identifiées. Et surtout, je dirais, il faut avoir un chiffre en tête. Et Nicolas Geoffrey me corrigera si je me trompe, mais je crois qu'on est à peu près à 2,5 millions de journées d'arrêt de travail par an, ce qui est énorme. Donc oui, les conséquences, énorme, elles sont financières, elles sont humaines, elles sont sociales.
Psychologiques aussi, parce que il suffit qu'il y ait un accident grave dans une société, ou même un mortel, ça va impacter les autres employés. Donc il y a tout un soutien psychologique ensuite à avoir, et qui peut avoir un impact sur le travail des gens aussi. Donc pour les entreprises, c'est un double effet là, en perte.
Et une désorganisation donc de l'entreprise, on le disait aussi.
Ah bah complètement, le poste occupé devient un poste vacant à remplacer ou devient un poste qui doit être aménagé, en imaginant qu'ils doivent être aménagés. Donc vous voyez que ça a des conséquences extrêmement importantes. Donc il vaut mieux effectivement prévenir et je dirais d'où l'intérêt de la prévention du risque routier.
Alors on parle de prévention. Comment justement réduire ce risque routier professionnel ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre comme politique dans le domaine donc déplacement, véhicule, communication, compétences ? Qu'est-ce qu'une entreprise elle peut mettre en place ?
L'entreprise déjà, elle doit avoir un document unique sur les risques routiers. Donc le rôle du responsable de l'entreprise, c'est de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses agents. Donc et là c'est même le code du travail qui le prévoit. Donc c'est une obligation légale. Il me semble intéressant qu'à minima, une fois par an, qu'il y ait une formation, alors quelconque, ça peut prendre une formation théorique basique ou même organiser un village de la sécurité routière au sein de l'entreprise. Après, tout dépend des besoins de l'entreprise. Donc certaines entreprises nous contactent, nous, directement à la préfecture. Et donc là, on se rencontre et on essaie de déterminer les besoins de l'entreprise parce qu'on n'arrive pas avec quelque chose de clé en main. Nous, on s'adapte à l'entreprise. Certains me disent, bon, ben voilà, mes employés n'entretiennent pas leur véhicule de fonction, donc nous, on va intervenir là-dessus. D'autres vont me dire, bon, ben moi, mes employés téléphonent ou mes employés roulent très vite. Donc, on va agir selon la problématique de l'entreprise.
Suivant leur utilité, effectivement, s'ils utilisent plus les véhicules, plus effectivement le téléphone, voilà, en fonction d'eux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, monsieur Le Gall ?
Absolument, on est tout à fait d'accord, puisque en fait, chaque on parle toujours de comportemental. Donc en fait, chaque entreprise et chaque membre de l'entreprise va avoir un comportement différent. Donc en fait, le but, c'est vraiment d'adapter en fonction de l'accidentologie particulière ou d'une problématique particulière, des ateliers, et c'est là où Vigidoro est performant, c'est-à-dire qu'on va adapter. Je vous donne un exemple assez simple dont on n'a pas encore parlé, mais remplir un constat, c'est pas forcément simple. Et c'est un coût sur des flottes d'entreprises, c'est un coût qui devient énorme. Donc, on peut faire aussi, et Vigidoro le fait régulièrement, c'est-à-dire des ateliers pour savoir remplir correctement un constat. Il faut savoir aussi que tous les ans, un certain nombre de nouveaux panneaux sortent sur le parc de sécurité routière nationale. Donc, en fait, il faut aussi à un moment, je dirais, revenir et briefer les gens sur la signification de ces nouveaux panneaux.
Est-ce que, Madame Ducry, au niveau de la mairie de Bédarrides, comment vous réduisez un petit peu ce risque routier professionnel ? Comment vous y prenez ?
Alors, je voulais revenir sur la journée prévention, justement. Nous avions, avec le partenariat d'une auto-école, nous avions organisé un code de la route géant. Outre la circulation, il y avait ce code de la route géant. Et les statistiques parlaient d'elles-mêmes, puisque 60% des personnes présentes qui ont joué le jeu, puisque c'était gratuit, bon, on a émis des lots, et on a eu beaucoup de monde, et en fait, 60% des gens n'auraient pas été lauréats. Donc en fait, il faut le savoir, voilà, donc dans le lot, il y avait des employés, il y avait des administrés, mais il y avait également des employés, et en fait, ça a permis à tout un chacun de se rendre compte que, en effet, tout un tas de panneaux n'étaient pas connus. Les vitesses, les dépassements, enfin, tout ce qu'on pose comme question sur le code de la route à des jeunes qui, eux, sont initiés.
Donc, ça serait bien de faire un rappel régulièrement ?
Ah, tout à fait, tout à fait. Là, ça a vraiment été la preuve flagrante. Et je veux dire, toute tranche d'âge confondue. En fait, les lauréats ont souvent été les jeunes. Les jeunes conducteurs qui ont allé jusqu'à 5 ans, jusqu'à 10 ans de permis. Au-delà, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de lacunes. Les points, je veux dire honnêtement, ils n'auraient jamais eu leur code à l'instant T.
Et est-ce que ça peut être une réflexion au niveau de la préfecture, peut-être justement de pourquoi pas tous les 10 ans, peut-être 15 ans, que les conducteurs viennent participer à des journées ?
Alors, nous, on en fait régulièrement. Hein, dans toutes les actions que l'on fait, nos actions de prévention, généralement, on y met un test de code de la route. Parce qu'on s'aperçoit, et moi le premier, hein, lorsque j'ai passé mes permis poids lourd, il a fallu que je repasse mon code de la route. Et bon, il a fallu que je me replonge dans les bouquins parce que on oublie, hein, tout simplement. Et on s'aperçoit à chaque fois, ce que disait madame est tout à fait vrai, que au lieu de faire entre 0 et 5 fautes, on en fait entre 15 et 20. Et pourtant, ce sont des choses qu'on voit tous les jours. Donc nous, on le propose systématiquement. Après, que ce soit une obligation, ça, c'est un autre débat.
Oui, après, le code de la route évolue aussi. Donc, quelque part, de se remettre à jour, effectivement, c'est une bonne chose. On va parler d'un autre sujet. Peut-être des conseils pratiques à donner à un salarié concernant le risque routier. Savoir reconnaître sa fatigue. Comment on peut reconnaître sa fatigue quand on est au volant ? Il y a des signes avant-coureurs.
La fatigue, ça, de toute façon, on le voit. Les yeux qui piquent, puis quand on n'est pas concentré, c'est un signe de fatigue. Après, je pense qu'il faut adapter sa journée de travail en fonction des déplacements et puis des déplacements qu'on doit faire.
Oui. Des pauses, entre autres, des tentes, comme on le disait tout à l'heure.
C'est le plus important, oui.
Madame Ducry.
Au-delà de ça, la prise de médicaments. On en parlait hors antenne, mais voilà. La prise de médicaments, les gens prennent des certaines substances pour certaines pathologies et ne savent quelquefois pas les incidences que cela a sur le comportement. Et donc, en fait, des risques de somnolence, de manque de vigilance, tout un tas, en fait, de symptômes qui arrivent post-prise de médicaments. Et en fait, j'avais vu un logo qui disait la vigilance, vous perdez votre vigilance sur votre table de nuit. Parce qu'en fait, on laisse nos médicaments, voilà, c'était l'image. Mais en fait, souvent, les gens n'ont pas conscience de ce que peut provoquer la prise de médicaments et après la prise de volant.
C'est vrai que l'on parle souvent de l'alcool et des effets de la drogue, mais les médicaments, c'est quelque chose d'assez commun et qui est parfois aussi dangereux que les autres addictions.
Ouais. Oui.
Et on s'aperçoit, pour reprendre ce que disait M. Geoffrin, on s'aperçoit qu'en fait, les pictogrammes sur les boîtes de médicaments, quand on fait le test dans nos ateliers, ne sont absolument pas connus. C'est-à-dire que la signification de ce qu'il y a sur les boîtes de médicaments, dans 80% des cas, lorsqu'on interroge dans nos ateliers, vous apercevez qu'en fait, les gens ne savent pas définir exactement le pictogramme, ce que veut dire le pictogramme qui est sur la boîte de médicaments.
Effectivement, et puis facteur, on disait alcool plus médicaments, ben là, oh, ça en rajoute, malheureusement. Alors
là, c'est l'effet explosif.
Là, on est sur le cocktail.
Eh bien, on va revenir donc sur cette émission dans quelques instants sur la thématique donc des accidents du travail et notamment, entre autres, du risque routier professionnel. On parlera du téléphone, mais aussi comment une entreprise peut adapter son intérieur de son véhicule en prévision un accident de la route ou même tout court, l'adapter hein, parce que c'est une obligation.
Pour l'éviter.
Pour l'éviter, voilà, exactement. Donc, séparation habitacle et arrière du véhicule. Je vous propose donc de faire une très courte pause et on se retrouve juste après. À tout de suite sur l'antenne d'RTVFM. Et de retour dans l'émission Sur ma route avec nos invités du jour, Madame Isabelle Ducry, élue à la mairie de Bédarrides et déléguée à la sécurité routière. Nous avons aussi toujours Monsieur Xavier Le Gall, responsable de l'association Vigideroux, et Monsieur Nicolas Geoffrey, chef du pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse. Je rappelle la thématique de cette émission aujourd'hui, ce sont les accidents du travail et notamment le risque routier professionnel. Et on va pouvoir parler aussi maintenant un petit peu de comment on peut adapter l'intérieur, comment une entreprise en tout cas, que ce soit mairie, que ce soit collectivité, comment adapter l'intérieur des véhicules en prévision d'un accident de la route. Monsieur Le Gall.
Alors, qu'on soit, je dirais, sur du professionnel ou qu'on soit sur du particulier, la cinétique de l'accident, quelle qu'elle soit,
la même.
Exactement la même. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui va, à un moment, être libre et être posé de manière totalement anarchique dans la voiture, en cas de choc, on se rappelle l'école, hein, EC égale 1,5 de MV2, donc c'est-à-dire une énergie cinétique qui est développée qui va être extrêmement importante. Donc à un moment, tout ce qui va être dans la voiture et qui ne va pas être, je dirais, rangé correctement, qui ne va pas être rangé, un trousseau de clés qui est posé juste à côté de vous en cas de tonneau ou en cas de, je dirais, en cas de sortie de route un peu violente, va devenir un projectile extrêmement important. C'est-à-dire qu'un pack d'eau qui pèse 10 kg, d'accord, à 90 km/h, va peser 100 kg. un sac à main ouvert sur le et sans faire aucune sorte de misogynie, mais un sac à main ouvert sur le siège passager, à partir du moment où vous allez avoir, par exemple, vous faites un tonneau, ben, à partir de ce moment-là, vous allez voir que l'ensemble du sac à main va venir, je dirais, se projeter sur le conducteur, sur le passager. Effectivement, c'est là, on en parlait tout à l'heure, que dans la voiture tonneau, on montre, en cas de renversement du véhicule, on remplit en fait la voiture de petites boules gonflées à l'air, qui vont nous montrer en fait ce que vont devenir l'ensemble des objets à partir du moment où on fait un tonneau. Et là, je pense que les gens se rendent compte vraiment, vraiment de la manière dont il faut ranger son véhicule pour pas que ce qui est à l'intérieur devienne des projectiles. Il y a un coffre avec une plage arrière par-dessus. Ça sert aussi à un moment, je dirais, à ranger un certain nombre de choses. Si c'est fait pour ça, c'est comme ça qu'il faut le faire. Sur la partie, on parlait de la partie professionnelle, effectivement, il y a des normes de sécurité assez précises en ce qui concerne la protection entre l'avant et l'arrière, avec parfois des parois en métal, ou alors des parois jourées en métal. Effectivement, mais ranger l'arrière de son camion, ranger ses outils, c'est un moment éviter que le poids que va représenter l'ensemble de ses matériels, que ce soit des outils ou que ce soit des cartons, vienne à un moment se projeter un maximum contre, je dirais, des cartons qui sont posés et calés sur cette fameuse protection. C'est mieux en cas de choc qu'à un moment, un déplacement qui va avoir lieu, c'est ce qu'on disait dans le cadre de la voiture particulière. À partir du moment où on va avoir un déplacement qui va être extrêmement important et un poids, une masse qui va se déplacer, à partir de ce moment-là, effectivement, on risque l'écrasement, je dirais, du conducteur sur son tableau de bord ou sur son volant. Donc oui, effectivement, c'est extrêmement important. Et il faut insister, je pense que M. Geoffrey va reprendre derrière, mais c'est extrêmement important le rangement du véhicule et le rangement des véhicules, on va dire, des VU. C'est extrêmement important, puisque là, on va avoir des masses derrière qui vont être mobiles si elles sont mal rangées et qui ont cas de choc, c'est-à-dire on va passer de 90 km/h à zéro. Vous imaginez l'énergie cinétique qui va être développée et le déplacement de masse que ça va produire.
Monsieur Geoffrey, peut-être quelque chose à rajouter ?
Juste, voilà, vraiment dire qu'un trousseau de clés, un téléphone ou un sac à main devient une arme potentielle dans la voiture. Voilà, et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Hein.
Madame Ducry, au niveau de la mairie de Bédarrides, comment est-ce qu'on conseille au personnel de la mairie de ranger son véhicule ? Est-ce qu'on le vérifie régulièrement aussi ? Est-ce que les véhicules sont aussi adaptés pour cette problématique ?
Bon, les véhicules sont des véhicules utilitaires pour la plupart, donc, puisqu'il y a peu de véhicules qui servent en véhicule léger, quoi. Les véhicules utilitaires, bon, en principe, ont des grilles, il y a des consignes qui sont données. Et en fait, c'est aux responsables des services techniques de bien vouloir faire appliquer ce genre de précautions. Il y a un document unique qui existe, et donc il faut se baser à son contenu.
Eh bien, très bien, donc les services techniques donc, font ce travail, comme vous venez de le rappeler. On va parler du téléphone, parce que le téléphone, malheureusement, c'est une problématique quand on est au volant. Et on va prendre le cas concret d'un commercial qui fait partie d'une entreprise. Et est-ce que pour lui, le téléphone, c'est une génération de stress au volant ? Et quelle serait peut-être la bonne conduite quand le téléphone sonne à tenir ?
C'est pas une génération de stress, c'est une génération de distraction. C'est pour ça qu'on appelle ça un distracteur. Le temps que vous allez passer, on parlait tout à l'heure, de la capacité du cerveau à se concentrer et physiologiquement à accomplir des tâches. Vous lui faites déjà accomplir la tâche de conduite. Vous allez lui demander en plus d'accomplir une tâche de regarder l'écran, de répondre au téléphone, de se concentrer. Parce que j'imagine que quand vous répondez au téléphone, vous essayez d'avoir un discours à peu près cohérent et à peu près compréhensible. Donc en fait, on va à un moment, c'est pour ça qu'on appelle ça un distracteur, on va de toute façon demander au cerveau d'accomplir des actions supplémentaires que celles de la conduite. Donc une distraction. Je ne parle pas du fait de tenir le téléphone dans la main, qui là est en fait, selon, mais je pense que Nicolas Geoffrey me reprendra derrière, c'est interdit parce qu'en fait ça empêche aussi, en plus de la distraction, ça empêche la manœuvre. Donc à un moment, voilà, on est toujours dans le comportemental. C'est-à-dire qu'à un moment, téléphoner en voiture, c'est demander au cerveau de faire une autre action que celle qu'il est en train de faire. Donc de lui demander une sollicitation supplémentaire.
Que risque-t-on justement aujourd'hui ? Je crois qu'il y a eu des évolutions de loi à ce niveau-là. Si on a le téléphone à la main.
Si on est au téléphone, si on a le téléphone en main, déjà c'est une amende qui entraîne la perte de 3 points avec une amende forfaitaire de 135 euros. Il y a eu une évolution en début d'année dernière, c'est-à-dire que quelqu'un qui conduit et qui au téléphone et qui commet une autre infraction, par exemple franchir un feu, une ligne continue ou un dépassement dangereux, ou voilà, tout ce qui touche la conduite, là il peut avoir une suspension du permis immédiate.
Donc ça a été
renforcé parce qu'il y a énormément d'accidents avec le téléphone. Et donc voilà, le législateur a dit qu'on va serrer un peu plus la vis.
Alors pour un particulier, on va lui dire qu'il se passe du téléphone, il n'y a rien d'urgent, il faut qu'il attende. Je pense que c'est le plus simple.
Est-ce que pour un commercial, il y a quelque chose de plus urgent ?
Le commercial doit arriver en vie, hein. Je pense que c'est la première des choses, que ce soit un commercial ou n'importe qui. Voilà. Le but du jeu, c'est d'arriver à son rendez-vous à temps et en vie. Après, il y a une chose qui est magique sur le téléphone, ça s'appelle un répondeur. Et donc, on profite des pauses pour écouter son téléphone et prendre ses rendez-vous sur son calepin au lieu de faire tout ça en conduisant.
Et vous avez une application, on en parlait tout à l'heure aussi en antenne. Vous avez une application qui est mise à disposition par la sécurité routière.
Qui est gratuite.
Qui est gratuite et que vous allez mettre sur votre téléphone et qui va en fait dire que vous êtes en train de conduire, ouais. Et que vous rappellerez dès que tout ça. Donc tout ça est un problème, comme tout à l'heure.
De comportement.
Comme tout, simplement. C'est un problème de comportement. Il faut changer peut-être un certain nombre, et nous les premiers, hein, on n'est pas exsangue. Je veux dire, à un moment, il faut changer une petite chose tous les jours. Pour un moment, se rappeler que la sécurité routière, je trouve que le slogan est extrêmement bien trouvé, c'est vivre ensemble.
Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de, vous allez me dire si je me trompe, hein, de rajouter de moyens, kit main libre et autres, pour finalement, comme on dit, attendre, ça reste le plus simple. Et je pense que c'est un message qui est clair au moins.
Les voitures aujourd'hui sont pratiquement toutes équipées de kit main libre. Donc vous voyez qu'on va rester...
C'est toléré par la loi. Est-ce que c'est forcément sécuritaire ? J'en suis pas persuadé.
C'est une distraction.
C'est une distraction.
C'est un distracteur, forcément. On vient de le voir. Le cerveau fait une autre tâche que celle pour laquelle il est sollicité en permanence, c'est-à-dire la conduite.
Au-delà des appels téléphoniques, ce qui est encore beaucoup plus dangereux à mon goût, à mon idée, ce sont les SMS auxquels on répond au volant. Parce que là, bien entendu, ça sollicite. Ah oui. En plus, les mêmes. Je veux dire, donc, en matière crescendo, je crois que le SMS, beaucoup de jeunes et moins jeunes font ce genre d'erreur qui peut leur coûter la vie et coûter la vie à quelqu'un en face.
Donc là, on parle téléphone, toujours juste au niveau de la mairie de Bédarrides. Qu'est-ce qui est mis en place, justement, pour éviter ? Bon, des conseils, mais qu'est-ce qui est mis en place pour éviter d'utiliser le téléphone au volant ?
Les consignes sont claires, c'est interdit. Donc, y compris notre police municipale qui est sur site et qui devrait, à un moment donné, s'il constatait un des employés au volant avec un téléphone, sanctionner.
On va clôturer donc sur cette partie téléphone. Quelles sont les actions en faveur de la sécurité routière entreprises par les employeurs tout au long de l'année ? Alors là, on va rappeler donc réunion, formation pour rappeler donc code de la route, limitation de vitesse, ceinture de sécurité, pas de téléphone au volant, on vient de l'aborder. Les actions aussi de sécurité routière qui sont entreprises par la sécurité routière, donc la préfecture de Vaucluse. Il y a des actions aussi, est-ce qu'on peut en parler un petit peu ?
Des actions, oui, nous on en fait toute l'année. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est sollicité par les entreprises qui souhaitent intervenir auprès de leurs employés. Nous, après, au niveau de la préfecture, on délègue des associations comme Vigidoroux qui font ça très bien. Et voilà, donc à partir du moment où on a fait le diagnostic de ce qui est demandé par la société, soit on intervient, nous, avec nos intervenants départementaux de sécurité routière, qui sont les bénévoles qui travaillent pour le compte de la préfecture, ou alors on envoie des associations qui ont du matériel que nous, on ne peut pas avoir.
Comment vous contactez donc une entreprise là qui nous entend en ce moment, une collectivité, une mairie, comment elle peut vous contacter ?
Ils peuvent nous contacter via le site, via notre, en nous envoyant un mail, Pref sécurité-routière@vaucluse.gouv.fr. Donc là, ils prennent contact, nous on les rappelle et puis on fait le diagnostic et après on voit ce qu'on fait avec.
Et pour contacter donc l'association Vigie de Roux, nous rappeler au niveau des informations aussi sur votre organisation d'atelier, comment vous retrouvez l'association par exemple?
Alors vous nous retrouvez sur notre site internet qui s'appelle vigiedoroux.com, d'accord, www.vigiedoroux.com. Pour voir tout ce qui est fait par l'association au niveau national, vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook qui s'appelle Vigie de Roux, aussi une page Facebook. Et régulièrement, on communique aussi sur LinkedIn, sur Twitter. J'irai de manière à un moment à ce que le public se rende compte qu'il y a des choses extrêmement intéressantes et extrêmement importantes. Pour ce qu'on disait avec madame tout à l'heure, essayer de changer de temps en temps quelque chose dans son comportement, mais pas y être obligé, mais en avoir conscience. Je pense qu'aujourd'hui, la principale mission, c'est la prise de conscience, d'accord ? Puisque les voitures ont une sécurité passive importante, etc. Donc c'est la prise de conscience de l'automobiliste. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver à peu près, je dirais, sur tous les réseaux sociaux sur lesquels on est présent. Je voulais juste ajouter un petit point, c'est que en plus de ces ateliers en présentiel, c'est-à-dire les ateliers qu'on va réaliser ou dans les entreprises, ou dans le cadre de centres commerciaux, ou dans le cadre, je dirais, de demandes particulières de la préfecture, on s'est aperçu aussi, et avec le Covid, et pour un problème d'organisation d'entreprise qu'on connaît assez bien, en fait, qu'une partie des entreprises aussi pouvait être touchée en distanciel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis aussi une partie distancielle sur laquelle les entreprises qui ne peuvent pas se désorganiser, c'est-à-dire par exemple, un artisan ne peut pas forcément arrêter son entreprise avec ses deux ou trois personnes. Donc aujourd'hui, on a la possibilité, et ça on vous répondra là-dessus, de faire du distanciel, au moins pour commencer à sensibiliser. Sans gêner, je dirais, le fonctionnement de l'entreprise.
Pour finir, peut-être, vu que nous arrivons au terme de cette émission, est-ce que pour la sécurité routière, la formation et la sensibilisation au sein des entreprises, collectivités, mairies, représentent un formidable levier pour éviter de nombreux accidents ?
Bien sûr. De toute façon, la formation, elle est essentielle, hein, que ce soit en entreprise, mais aussi bien en école que lycée, ou même des formations généralistes dans les foires et les salons. Hein. Il faut que le message de sécurité routière passe au travail aussi, parce que ça en fait partie. Donc nous, on est là pour ça, on est là pour aider les entreprises. On essaye de faire des ateliers qui sont assez ludiques, hein, parce qu'il ne faut pas que ce soit pris aussi en grippe, hein, par les salariés. Voilà, on est allé dans quelques concessions automobiles où on a fait un village de la sécurité routière à destination des employés.
Et des chefs d'entreprise.
Et des chefs d'entreprise. Mais voilà, ce sont les employés qui passaient sur les ateliers principalement. Il ne faut pas que ce soit pris comme une punition, mais plus comme un ami. Amusement, mais dans cet amusement, nous, on fait passer nos messages.
Une prise de conscience.
Exactement.
Oui, on est dans la prise de conscience et l'acceptation à un moment d'apprendre de nouvelles choses. Et je dirais, nous, on existe depuis 15 ans. Donc voilà, on a su aussi à un moment progresser, avancer dans la psychologie, je veux dire, de la relation avec l'usager et avec le professionnel. C'est pour ça que, oui, effectivement, comme le disait Nicolas Geoffrey, il faut à un moment que ces ateliers, et c'est ce que je pense on réussit bien, ces ateliers soient suffisamment ludiques, mais suffisamment pédagogiques pour qu'à un moment, le sensibiliser ait une vraie ressorte avec une vraie prise de conscience. Et sur le fond, c'est aussi ce qui nous anime, il faut être très clair.
Oui. Il faut que le message soit diffusé, de par les acteurs locaux à un moment donné aussi, parce qu'on a quand même eu un impact et on a quand même un message à faire passer, et puis on peut aider. Et je pense que, je le dis tout le temps, si on en sauve un par une action, on a déjà gagné.
Ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission sur ma route, donc de ce mois de février, donc sur les accidents du travail, le risque routier professionnel. Merci à nos trois invités du jour. Donc merci. Madame Isabelle Ducry. Donc je rappelle que vous êtes élue à la mairie de Bédarry, des délégués à la sécurité routière. Merci de vous être déplacée. Merci aussi à monsieur Xavier Legal. Vous êtes responsable responsable de l'association Vigideroux, et vous venez spécialement du 83, pour, donc du Var pour nous, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Et merci aussi à monsieur Nicolas Geoffrey, chef du pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse. Merci. Et puis merci aussi de nous soutenir dans le cadre de cette émission. Merci à tous les trois, et puis à très bientôt sur l'antenne d'RTVFM. On se retrouvera donc pour une prochaine émission sur ma route. Merci beaucoup, au revoir.
Venez d'écouter Sur ma route, une émission réalisée en partenariat avec la préfecture de Vaucluse dans le cadre du plan départemental d'action de sécurité routière.